Marc-André Charguéro est devenu centenaire cette année, mais il continue à écrire. Il a accepté de nous parler de son livre, un livre intitulé « Le monde occidental et la Shoah, 55 événements examinés, idées reçues, paradoxes, oublis, controverses ». Une manière originale d'aborder les petites imprécisions de l'histoire avec un grand H concernant la période avant, la période pendant et la période après la guerre. Lucie Gilson a pu rencontrer Marc-André Charguéro et voici leur échange.
Bonjour Marc-André Charguéro.
Bonjour madame.
Vous êtes l'auteur du livre « Le monde occidental et la Shoah » qui réexamine 55 événements oubliés de la Shoah, mais aussi des idées reçues, des paradoxes, oublis, controverses. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans votre sous-titre. Moi, je trouve que c'est une manière très originale d'aborder la Shoah sous un angle différent du simple témoignage. On apprend, par exemple, que les États-Unis n'étaient pas toujours la terre d'accueil pour les Juifs d'Europe qui fuyaient la guerre. Alors, ma première question, comment avez-vous choisi ces anecdotes et histoires?
Parce que j'ai écrit déjà quatre livres qui, eux, décrivent toute la période. Et c'est donc à partir de ces quatre livres qui sont extrêmement documentés que j'ai pu faire ces articles. Et les livres viennent de 2 ans de travail dans lesquels j'ai lu un peu plus de 100 ouvrages américains et une centaine de revues que j'ai entièrement indexées, ce qui m'a permis de retrouver toutes les sources dans ce que j'écrivais.
Alors, dans votre livre, rien n'est tout blanc ni tout noir, à l'image crue et peut-être dérangeante de la réalité. Par exemple, le Canada, vous expliquez dans le livre que le Canada a systématiquement refusé les réfugiés juifs avant, pendant et après la guerre, alors que l'Italie, pourtant sous le joug de Mussolini, notoirement antisémite, protégeait ses juifs.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Le Canada a refusé les juifs, mais d'une façon officielle. Quant à l'Italie, en fait, jusqu'à la chute de Mussolini, n'a pas expulsé un seul juif. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils l'ont bien traité, car ils l'ont mis en camp de concentration dans des conditions très mauvaises. Mais ils ne les ont pas remis aux Allemands. Et ça, c'était quand même fondamental.
Et donc c'est un peu ça que vous vouliez mettre en exergue finalement dans ce livre, le fait que ces idées reçues sur un certain nombre de pays qui ont...
Je vous donne un autre exemple, la nuit de cristal. Donc il y a eu 190 synagogues qui ont été incendiées, 7000 magasins qui ont été détruits, 3000 juifs qui ont été arrêtés, des morts et des blessés, tout le monde en a parlé, les gens qui s'intéressent en tout cas à la Shoah. Mais quand les démocraties occidentales déclarent, elles, ne rien entreprendre au nom d'une politique d'apaisement, c'est quand même assez inouï de penser que devant un tel drame, tout l'Occident, en fait, baisse les bras.
On se rend compte qu'en fait, les États-Unis n'ont pas eu une politique, finalement, ils étaient dans le déni de ce qui se passait en Europe.
Exactement. Mais ce n'est pas les seuls. Tout le monde occidental a mal jugé ce qui se passait avant la guerre. Pendant la guerre, il y a peut-être des excuses, mais avant la guerre et après la guerre, il n'y a pas d'excuses. Et ça s'adresse pratiquement à tout le monde occidental.
Alors,
c'était viscéral, et ce que je dis est entièrement documenté et surtout référencé. Et c'est la raison pour laquelle ces livres qui ont une diffusion limitée, mais quand même une certaine diffusion, j'ai jamais eu une remarque de gens qui m'ont dit « vous exagérez » ou « ceci est faux ».
Alors, autre thématique, je crois, qu'on retrouve en filigrane, c'est la résilience également. Vous appelez ça la résilience des peuples juifs dès le commencement des politiques de discrimination. D'ailleurs, qu'on retrouve un peu partout en Europe, est-ce que c'est de la résilience, c'est du déni, c'est une manière de se protéger contre les persécutions, c'est une confiance en l'humanité?
C'est-à-dire que pendant la guerre, il y a eu un déni de ce qui se passait parce que les gens, les populations juives et les autres aussi, ne pouvaient pas s'imaginer que c'était vrai. C'était trop fort. C'était trop invraisemblable. Alors, pendant la guerre, il ne faut jamais oublier que pendant la guerre mondiale, on a aussi eu des gens qui propageaient des idées qui étaient fausses. Et là, ils ont dit, c'est une question, au fond, c'est de la publicité, une sorte de guerre psychologique que font les Allemands. Donc il y a eu un recul parmi les populations juives et les populations non juives, qui étaient en fait des populations catholiques dans l'ensemble de l'Europe.
Donc les peuples juifs qui étaient, qui ont vu ces politiques de discrimination se mettre en place, n'y croyaient pas finalement.
Enfin, du moins, n'ont pas pris toute la mesure de ce qui allait se passer.
Alors, votre livre aborde aussi des questions assez philosophiques. Par exemple, est-ce qu'on pouvait, à l'époque, aider les Juifs sous le régime nazi ? Est-ce que vous pouvez un peu élaborer autour de cette problématique-là ?
C'est-à-dire, on pouvait les aider en les accueillant. C'est la seule façon de faire. Mais les nazis, avant la guerre en tout cas, laissaient partir les Juifs. Ils n'ont pas voulu les tuer, ils ont voulu s'en débarrasser. Mais ils pouvaient partir en abandonnant tout ce qu'ils avaient. Alors évidemment, les autres pays ont dit « ça, on ne marche pas, on ne prend pas à notre charge des Juifs qui n'ont rien ». Et ils n'ont pas voulu donc ouvrir leurs portes aux Juifs, que ce soit le Canada, que ce soit les autres pays qu'ils ont pris d'une façon extrêmement limitée.
Et donc, c'est là que vous expliquez qu'il y a eu évidemment une immigration massive du peuple juif, et notamment en Israël, ou la Palestine de l'époque.
Ils ont été principalement en Palestine, mais ils étaient quand même à la libération extrêmement peu nombreux. Ils étaient moins de 800 000, et évidemment entourés de dizaines de millions d'Arabes, ce qui donnait un risque terrible pour ceux qui allaient devenir Israël en 48.
Alors il y a une autre question aussi que soulève votre livre, c'est pourquoi les initiatives individuelles de sauvetage ne furent-elles pas plus nombreuses ? C'est également une interrogation qui est encore soulevée aujourd'hui, ou en tout cas moi c'est une interrogation qu'on a soulevée pendant mes cours d'histoire à l'époque où j'étudiais la question de la Shoah justement.
Oui. Écoutez, il faut se placer avant la guerre, là. Parce que pendant la guerre, évidemment, c'était plus difficile d'accueillir des Juifs, parce qu'ils ne pouvaient pas bouger. Vous avez tout à fait raison, on n'a pas voulu les accueillir, parce que ça coûtait de l'argent, parce que également, vous avez un antisémitisme latent partout. Il est quelquefois affirmé, comme dans le cas du Canada, il est latent partout, comme d'ailleurs il l'est encore aujourd'hui.
Alors comment l'expliquer, cet antisémitisme latent ? C'est quelque chose qui se passe dans l'éducation ?
Écoute, ça je ne peux pas l'expliquer, parce que personne n'a pu expliquer pourquoi il y avait cet antisémitisme aujourd'hui, encore aujourd'hui, bien qu'il soit extrêmement atténué par rapport à ce qu'il était avant la guerre. Ça n'a aucun rapport. C'est mis en épingle, mais enfin, c'est quand même relativement limité par rapport à avant. On n'oublie pas qu'entre-temps, la population a doublé. En conséquent, c'est tragique, c'est inadmissible, mais ça existe.
Alors,
pourquoi c'est un transféminisme ? Vous prenez la Pologne. La Pologne a été terriblement antisémite. 97% des Polonais ont été massacrés. 97%. Le seul pays.
Des Polonais juifs.
Oui, parce que non seulement les nazis étaient contre les juifs, mais la population catholique était contre les juifs aussi. Antisémite. Ouverte avant, pendant et après. Parce que quand vous êtes très minoritaire, tous les membres un peu faibles disparaissent dans la masse. Et je pourrais d'ailleurs vous ajouter qu'il se trouve que je suis protestant. Bon, d'ailleurs, on me l'a reproché, il m'a dit « Pourquoi vous parlez de ça ?» Parce que ça m'intéresse. Et que finalement, il y a quelque chose, moi qui suis né en France, il y a quelque chose de parallèle. Nous sommes 1% en France. Et cependant, on a eu une influence qui dépassait très largement les 1%. Et ça, les autres n'aiment pas.
Alors, on découvre également, ça a un sens, hein, ce que vous dites, ça me donne une bonne transition. On découvre également, moi en tout cas, l'inaction de la CICR, donc la Croix-Rouge. Est-ce que vous faites un lien avec ce qui se passe aujourd'hui, par exemple en Israël, l'inaction de la Croix-Rouge ou le fait que la Croix-Rouge soit si critique envers Israël aujourd'hui?
Je ne peux pas vous dire sur la Croix-Rouge, parce que c'est écrit un livre là-dessus. Mm. C'est un sujet tellement large qu'on ne peut pas vous donner un aspect. C'est très compliqué. Il ne faut jamais oublier une chose. La Croix-Rouge opérait en Allemagne pour les camps juifs de façon extrêmement importante. Et on ne peut travailler pendant la guerre et après, pendant la guerre, avec les Allemands, qu'avec une certaine compromission pour pouvoir envoyer les camions. Vous avez là le début d'une controverse qui dit « vous ne deviez pas y aller » et l'autre qui disait « allez-y ». Mais quand on y va, il faut bien avoir la permission d'y aller. Et avoir la permission d'y aller, c'est qu'on est d'accord sur un certain nombre de choses. Donc là, vous prenez un sujet qui est tellement vaste qu'on peut difficilement aborder aujourd'hui.
Et enfin, ma dernière question, pardon, Marc-André Charguero, oui. c'est sur le retour des survivants dans leur pays natal. On découvre dans le livre, en tout cas moi j'ai découvert que la plupart des pays occidentaux ont rendu ce retour très difficile, bien que sachant ce qui s'est passé pendant le régime nazi. Là encore, comment on explique ça?
D'abord, je dirais que les retours ont été très peu nombreux. Il se trouve que moi, par le hasard des choses, j'ai passé une journée à l'hôtel Lutetia, où revenaient en 1945 les Juifs survivants des camps de concentration. C'était épouvantable. Alors, comment expliquer qu'ils ont été mal accueillis? Ça dépend des pays, mais dans beaucoup de cas, leurs affaires avaient été confisquées et achetées par des Français ou par des Allemands ou par qui que ce soit. Ils avaient, leur logement était occupé et les gens qui étaient là disaient « mais on est là, on a acheté de bonne foi pendant la guerre ». La bonne foi, entre guillemets. Et donc, il y a eu déjà un ressentiment parce qu'au fond, ils arrivaient, en plus de ça, ils sont arrivés dans un... Ceux des quelques centaines qui sont arrivés sont arrivés dans un état que je ne décrirais pas. Épouvantable. Non, épouvantable. Il faut y avoir été pour le croire.
Il y a des chapitres entiers dédiés à ces marches de la mort, de juifs sur les routes pour rentrer chez eux après l'expérience du camp.
Et à mon avis, inutile. Parce que finalement, à Auschwitz, ils ont fait ces marches de la mort. Ils ont laissé sur place ceux qui étaient blessés ou qui étaient en trop mauvais état pour partir. Et ceux-là ont été délivrés par les Russes.
Eh bien, Marc-André Charguero, je vous remercie pour ce livre qui est extrêmement édifiant. Enfin, pour ma part, j'ai trouvé que j'ai appris beaucoup de choses et je pense que il faut le lire pour justement aborder la Shoah sous un angle un peu différent. Donc, je rappelle le titre du livre, Le Monde Occidental et la Shoah, le réexamen donc de 55 événements oubliés de la Shoah. Merci beaucoup Marc-André Charguero d'avoir accepté notre invitation et à bientôt.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.